Cheville gonflée, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Il est 20h sur Europe 1, les informations. Brandon Ouaret. Bonsoir Brandon.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le gouvernement qui a dévoilé ce matin une série de 14 mesures en faveur des agriculteurs, des mesures complémentaires qui s'ajoutent aux 62 engagements déjà présentés par Gabriel Attal qui visent à mettre fin à la crise agricole historique de cet hiver. Parmi ces mesures figure la présentation promise début mai de la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides, mais aussi 100 millions d'euros d'aide pour les agriculteurs les plus en difficulté ou encore l'accélération de 100 projets de stockage d'eau, mais la FNSEA et les jeunes agriculteurs assurent vouloir faire preuve de vigilance et se disent disposés à entrer dans une nouvelle phase. Le Premier ministre Gabriel Attal, qui était aujourd'hui en déplacement dans la Manche, a affirmé que le dialogue avec les agriculteurs est continu et permanent depuis plusieurs mois. Terminés les blocus devant Sciences Po Paris, les étudiants pro-palestiniens ont quitté les lieux hier soir. La direction de l'établissement a accepté une partie des revendications des manifestants, notamment la fin des sanctions pour ceux qui ont participé à des blocages. Le président Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne, comprenant notamment l'arme nucléaire. Déclaration dans le cadre d'un face aux lecteurs organisé par le groupe de presse EBRA. Depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni en 2020 de l'Union européenne, la France demeure le seul État membre à jouir de la dissuasion nucléaire. À l'étranger, le roi Charles III de retour sur le devant de la scène dès la semaine prochaine. Annoncé hier du palais de Buckingham, l'évolution de son état de santé est jugée très encourageante selon les médecins. Le souverain britannique se faisait très discret depuis l'annonce de son cancer le 22 mars dernier. Charles III se rendra mardi en compagnie de la reine Camilla dans un centre de traitement du cancer. J-11 avant l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Elle a quitté ce matin le port du Pirée à Athènes à bord du mythique trois-mâts Belém. À son arrivée au Vieux-Port, 150 000 personnes seront là pour l'accueillir et c'est le nageur Florent Manoudou, quadruple médaillé olympique, qui sera le premier à porter la flamme olympique à son arrivée sur le sol français. Du sport et du football, 31e journée de Ligue 1 et dans moins d'une heure, le PSG reçoit le club normand du Havre. En cas de victoire, les Parisiens seront sacrés champions de France pour la 12e fois de leur histoire. Le groupe de Luis Enrique jouera sans Donnarumma, Hernandez ou Mendes. Et en rugby, 5e et dernière journée du tournoi des 6 nations féminins entre la France et l'Angleterre. Le match vient de se terminer et les Françaises ont largement été battues. Score final 42-21. Les Françaises terminent à la 2e place, 6e titre consécutif pour les Wild Roses dans le tournoi des 6 nations.
Europe 1,
20h03, le studio des légendes avec Jacques Vendroux.
Merci Brandon. Retour de l'info dans une heure.
Europe 1.
On est sur le toit du monde. On est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter. Elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de me le dire.
Jacques Vendroux.
Bonsoir. Un studio des légendes qui sort de l'ordinaire. Studio des légendes historiques, vintage, 20h-21h. Alain Giresse, le consultant football d'Europe 1 et surtout ancien international, ancien joueur de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe en 84, ancien entraîneur de Toulouse, du Paris Saint-Germain, de plusieurs sélections comme la Géorgie, le Gabon, le Mali, le Sénégal, la Tunisie et le Kosovo. On est très heureux de recevoir Alain Giresse ce soir dans ce studio des légendes. A tout de suite. Bonsoir Alain Giresse.
Bonsoir.
Merci d'être là. Merci d'être dans cette émission que vous connaissez, puisque vous êtes notre consultant football. D'abord, j'ai cette première question à vous poser. Est-ce que vous considérez, Alain, vous êtes quelqu'un de très populaire, les Français vous aiment beaucoup, Est-ce que vous avez quelque part réalisé tous vos rêves, honnêtement?
Alors, le rêve réalisé, oui, pas forcément pour être populaire. C'est pas ça, c'est... Oui,
non, mais
c'est...
les gens vous aiment bien, vous le savez.
Je ne peux pas échapper en étant honnête. Je le constate, effectivement, et j'ai toujours, quel que soit l'endroit où je vais, des signes de sympathie tout à fait, qui sont tout à fait, enfin, qui me surprennent toujours. Bon, mais à partir du moment où ces gens sont contents de se rencontrer, oui, ça, voilà, ça, c'est toujours plaisant.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous avez réalisé quasiment tous vos rêves sur le plan du football?
Au-delà. J'ai dépassé les rêves qu'on peut avoir, donc les rêves quand on est jeune, quand on a une passion comme moi du football ou d'autres, et qu'on arrive à aller dans le domaine que l'on espère, c'est-à-dire les grands matchs, les grandes compétitions. Mais on ne peut pas imaginer ce que ça représente, ce que ça va donner et qu'est-ce qu'on va vivre concrètement. Donc oui, moi j'ai de quoi alimenter toutes mes soirées jusqu'à la nuit des temps.
Alors justement, ce qui est important, c'est que le point de départ, c'est Langoiran. Alors Langoiran, c'est un petit village à côté de Bordeaux. Et je sais qu'il y a quelques années, eh bien, on a été joué avec le Variété Club de France à Langoiran, un stade qui vous est cher, qui s'appelle le stade Alain Giresse. Donc Langoiran, c'est le point de départ de tout.
Oui, bah oui, je suis né d'abord.
Votre première naissance.
Mais je suis né encore. La maison de familiale, je vois la chambre où je suis né, et non pas... Mais dans les cliniques adaptées, faites pour ça. Oui, et puis voilà. Puis après, mon père étant un footeur régional, les ballons à la maison, il y en avait. Et certainement, je ne peux pas me souvenir de ça. Je sais que je tapais dans le ballon. Je devais bien taper dans le ballon. C'est ce que je pense. Puisque mon père, un jour, m'a dit ben, il n'y avait pas d'équipe au village. Ce n'était pas facile d'avoir une équipe de jeunes. Mais il m'a dit tiens, il y a les Girondins qui font des détections. Et donc, je lui ai été amené.
Ça existait déjà?
Oui, des détections. Alors, en fonction de l'année de naissance, voilà. Telle image, c'est pour ceux qui sont nés en telle année, ok. Donc, il m'a amené. Moi, j'étais content. Non pas parce que c'était les Girondins, c'était parce que j'allais jouer. J'allais enfin jouer, être dans une équipe. Voilà, et puis tout s'est bien.
Votre première licence, votre première équipe, c'est Girondins de Bordeaux. C'était en
64.
64?
Eh oui.
Oh là là.
Oui, ça va. On se
non, mais 64, votre première licence, votre première. Vous avez toujours joué au milieu de terrain?
Ben voilà. Alors mon père a été surpris quand on m'a appelé Giresse. Oui. Quel poste? Milieu. J'ai dit milieu spontanément. Donc ils ont fait des équipes et m'ont mis au milieu. Et puis après ils remodelé les équipes. Et après on m'a dit, ils m'ont dit à la fin, ils ont dit à mon père, bon voilà, il est. Il pouvait aller dans l'équipe, il y avait trois équipes, A, B, C. Ben, il sera dans l'équipe A, etc. Et d'ailleurs, il y avait un match de Coupe d'Europe des Girondins contre Borussia Dortmund. Et il m'a dit, son équipe, là, maintenant, va être, ils seront ramasseurs de balles. Et mon père a dit, non, nous, on habite trop loin, on ne peut pas venir, etc. Mais en fait, le dimanche après, je participais à mon premier match avec les Girondins.
Et là, vous avez des souvenirs?
Oui, j'ai un souvenir que moi, j'arrivais de mon village qui était à 25 km. Alors, 25 km aujourd'hui, c'est quasiment la banlieue de Bordeaux. À l'époque, ça faisait loin. Et il y avait quand même un décalage entre les gens de la ville, notamment de Bordeaux, le côté un peu BCBG, et moi, le provincial, si je peux dire. Et je suis arrivé au rendez-vous avec mes autres coéquipiers. Et il y en a un qui me regarde. Il était veste bleu marine, foulard. Voilà. Moi, j'avais une espèce de sac, des jeans. Il me regarde comme ça, il me dit « Mais d'où tu viens, toi ?» Ah ben, j'ai dit « Je viens d'un village, à passer Langoiran. » Mais c'est où, ça? Voilà, j'étais perdu. Mais bon, le pied sur le terrain, après, tout a été réglé, et puis ça y est, c'était parti. Quoi.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier match en professionnel?
Oui.
Qui vous l'a annoncé, que vous étiez titulaire?
Oui,
c'était l'entraîneur?
Oui, c'était l'entraîneur André Gérard, à l'époque.
Ah oui?
Oui, et il y avait eu un...
Il y avait qui dans l'équipe?
Oh là, Rostani, Burdino, Petit...
Burdino avant-centre.
Rostani, je l'ai dit, Burdino aussi, Petit, Ruiter, Wojciak...
Dans les buts.
Là, c'était Bernard Michelina, parce que c'était Christian Montes qui était blessé. Voilà, ah, c'était cette équipe-là. Et moi, j'étais le tout jeune.
Michelina qui est devenu le préparateur physique après Démé Jacquet.
Après, oui.
Bon.
Oui.
Et vous vous souvenez de ce match? C'était
bien
contre
sûr.
Qui?
À Nîmes.
À Nîmes?
Oui.
Dans le vieux stade Jean-Bouin.
Le vieux stade Jean-Bouin.
Oh là là.
Nîmes qui jouait là, qui jouait dans les trois premières places. Et à ce moment-là, on était 18e sur 20, la position des Girondins. Donc l'entraîneur, il avait fait le tour, et il avait un jeune, il suivait un jeune qui marchait bien dans l'équipe réserve, c'était moi. Et il m'a fait venir. D'ailleurs, mon père lui avait dit, mais oh, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, non, vous inquiétez pas. Et c'est mieux qu'il démarre à l'extérieur, sauf que je ne savais pas ce que c'était que Nîmes.
Stade Jean-Bouin avec Kader Firou comme entraîneur.
Oui, Kabil et Mézi.
René Girard déjà?
Pas encore.
Pas encore.
Pas encore, un peu plus tard.
Et il y avait qui devant dans l'équipe de Nîmes? On va jouer un peu les anciens combattants pendant quelques secondes.
Il y avait Mézi.
Michel Mézi, qui est maintenant le directeur sportif de Montpellier.
Jacques Hivergne. C'est ça, oui, il y avait cette équipe-là. Bonnet sur le côté gauche, voilà. C'était bon, cette équipe. Mais ça s'est bien passé. Très bien passé. Et le match après, c'était Saint-Étienne. Bon, moi, en revenant, j'ai repris ma place avec l'équipe réserve. L'entraîneur m'a dit non, tu restes professionnel. Et j'ai enchaîné le week-end après, le premier match à Bordeaux.
Et c'est le début de l'aventure.
Et voilà, je n'ai pas quitté après le milieu professionnel, en tout cas dans le club.
Alors, puisqu'on parle de Bordeaux, quels sont vos grands souvenirs avec cette équipe des Girondins de Bordeaux? Je veux dire, parce que c'est une équipe qui était à la fois respectée, qui était populaire grâce à des garçons qui étaient quand même hors normes comme vous, comme René Girard, Bernard Lacombe. Mais avant cette période-là, il y a eu un avant.
Alors, vous m'avez dit avec cette équipe. Moi, je vous dirais avec ce club.
Avec ce club, voilà.
Parce que pour moi, c'est mon club. Et je suis arrivé tout gosse et j'ai franchi toutes les étapes et pour arriver au milieu professionnel et continuer après. Donc, c'est une histoire avec un club. C'est ma famille sportive. Et les premières années ont été très difficiles. Au début, ça s'est bien passé. Et pour moi, après, il a fallu que je m'adapte parce qu'on croit que quand on a bien démarré, on va pas arrêter de gagner des titres. C'est pas le cas. On jouait surtout pour pas descendre. Et c'était pas facile, mais bon, c'était comme ça. Puis après, le club a pris une autre dimension à partir de 78, avec l'arrivée du président Besse, qui d'un coup a dit, on va jouer l'Europe. Mais on lui dit, mais c'est un martien, qu'est-ce qu'il nous raconte là? L'Europe, nous on regarde derrière plutôt que de regarder devant. Mais non, c'est inversé. Et puis on a pris cette dimension.
Vous avez eu qui comme président, en dehors de Claude Bèze? On va y revenir dans quelques secondes.
Ah ben, il y a eu, au tout début, c'était M. Martin qui était...
Henri Martin,
oui.
Bien sûr.
Après, il y a eu Jean Rouault.
Jean Rouault, oui. Exactement.
Voilà, et puis après, est arrivé...
Claude Bèze et toute son équipe.
Voilà, c'est ça. Et le club a pris cette dimension, et pour arriver jusqu'à venir jouer l'Europe, gagner des titres. Et alors, le premier titre, si vous voulez, je l'ai vécu différemment que mes coéquipiers, parce que depuis ce temps-là, les Girondins finissaient second, ou derrière Nantes, ou derrière Saint-Étienne. Des finales de coupe, contre Lyon, contre Saint-Étienne, contre Marseille, et toujours second. Les Girondins n'arrivaient pas à passer le cap. Et là, ce titre, en 84 à Rennes, voilà. Et alors, il y avait la joie, mais il fallait s'imaginer, c'était une joie et une attente. C'était un soulagement pour toute la ville, toute la région. Et pour moi aussi, qui avais vécu tous mes coéquipiers qui étaient venus pour permettre d'avoir cette dimension, donner cette dimension à l'équipe, qui étaient tous des internationaux, ils étaient heureux parce qu'on avait un titre. Mais moi, ce titre avait une autre dimension par rapport à mon club.
Alors, ce que je voulais vous demander, Alain, c'est que quand on parle d'Alain Giresse, on parle de l'équipe de France, bien sûr, on parle du carré magique, bien sûr. On parle de plein de bonnes choses, vous avez été consultant aussi dans une autre vie. Mais quand on parle d'Alain Giresse, on se souvient surtout de cette équipe exceptionnelle, la grande équipe de 84, quand vous êtes champion, avec des joueurs dont je vais rappeler le nom. Il y a Dominique Dropsy, il y a Lennart Spech, il y a Patrick Battiston, il y a Bernard Lacombe, il y a Dieter Müller, il y a Gernot Rohr, il y a Jean Tigana. C'était une équipe mythique, j'exagère un peu, mais c'était une très très grande équipe. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Non, mais c'est...
Non, mais...
On s'en souvient.
Mais oui, alors, évidemment...
Il y a des périodes dans chaque club qui ont une longue histoire, comme celle de Bordeaux, mais on se souvient surtout de cette première période. Alors après, c'est vrai, il y a eu l'équipe de Zidane, de Lizarazu, de Dugarry, etc. Mais au départ, on se souvient de cette équipe-là.
Oui, parce qu'elle a marqué l'histoire des Girondins, puisque justement, ça a été la première équipe...
Elle a marqué le football français, attention.
En plus, en répercussion aussi, évidemment... qui a permis aux Girondins de devenir sur le devant de la scène, d'être champion, etc., et de renouveler ses performances. Mais cette équipe-là a été constituée de joueurs de qualité, de très grande qualité, de joueurs, mais aussi sur le plan humain. Et c'était vraiment avec une grande conscience professionnelle, avec un entraîneur, Aimé Jacquet, qui est quand même après a démontré ses qualités. Et ça fonctionnait bien dans cette équipe-là. Et moi, j'avais pris le brassard depuis 78. Et alors, je me sentais...
Investi. Une mission.
Oui, alors... Attention.
Je ne dis pas ça d'une manière prétentieuse. Je dis simplement que vous étiez investi d'une mission parce que le club des Girondins de Bordeaux, c'est votre club, c'est votre famille, vous connaissez tout le monde. On vous propose le brassard. Vous êtes en mission. Voilà.
Oui, je devais compléter le rôle. Bon, l'entraîneur qui nous préparait.
Une sorte de croisade, voilà. Je cherchais mon mot.
Mission.
Voilà. Mission, c'est mieux. Voilà.
Et donc, j'accueillais les joueurs qui arrivaient, que je connaissais par le biais de l'équipe de France, je les accueillais. Et je les aidais à découvrir un peu la région. Et on a de très bons produits dans la région. Je ne sais pas, vous avez compris ce que je veux dire. Et là, j'allais leur faire découvrir ce produit et à travers les différentes régions qui le produisent. Il y avait l'océan, découvrir l'océan pour des gens qui arrivaient d'Alsace ou d'ailleurs. Ah oui, l'océan, voilà. Et puis, en même temps, d'être celui qui peut amener quelque chose pour savoir ce que représente le club, son histoire et tout. Et ils ont tous adhéré à ça. Et d'ailleurs, vous pouvez discuter avec n'importe quel joueur qui a vécu ces moments-là. Ils en gardent un grand souvenir, ils en parlent avec beaucoup d'émotion. Donc, c'est ça qui était la force de cette équipe, cet ensemble, la façon de vivre le football et de vivre tout simplement au quotidien ensemble.
Et vous êtes champion, deux fois de suite.
Et on est champion. Et on est champion. Et alors, le premier, bon, c'est un soulagement. Alors, par contre, le second, c'était exceptionnel parce que dans une carrière, de se dire que quand vous jouez à domicile, vous ne vous posez pas la question de savoir si on va gagner, mais vous posez la question par combien on va gagner. Ah, c'était ça. Quand moi, je partais chez moi, je disais à ma famille, bon, on va gagner. On m'a dit, tu vas gagner, mais on va gagner. Même si on n'est pas bien, on va gagner 1-0, etc. Mais on va gagner. Une forte... Quand on est dans un état comme ça, c'est...
Une force intérieure.
Vraiment, mais vraiment. Et d'ailleurs, on a tout gagné.
Vous avez tout gagné,
c'est pour ça que quelquefois, j'entends... Ah, ils ont juste perdu un match à domicile et tout ça. Ah, ils ont perdu un match à domicile, mais nous, une année, on n'a rien perdu, hein, même pas venu. Donc...
Et moi, j'ai bien connu cette période, parce que c'est vrai que j'y allais régulièrement, j'avais même la chance de m'entraîner avec vous de temps en temps, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y avait des mecs hors normes. René Girard, Jean Tigana, Bernard Lacombe, qui sont tous restés vos amis. On a l'impression que vous êtes amis à vie.
Oui,
quelque part.
Mais notre aventure, voilà. Au-delà du fait qu'on était joueurs, moi je considère que c'est une aventure humaine qu'on a vécu ensemble, comme ça a été le cas avec l'équipe de France. Et quand on a vécu ces moments-là ensemble, mais écoutez, c'est le lien ne peut pas se rompre. C'est voilà, on est relié par ça. Et les retrouvailles, c'est là qu'elles ont le plus de saveur, parce que maintenant, plus le temps avance, plus avec le recul, plus on se replonge dans ces moments-là. Et qu'on décortique ces moments qui nous...
Et ce sont des merveilleux souvenirs.
C'est trop. C'est vraiment plus que plaisant.
Alors là, c'est Bordeaux, et vous partez à Marseille, où tout le monde est un peu surpris. Tout le monde est même très étonné. Moi, je me souviens de vous avoir eu au téléphone à l'époque. Vous quittez les Girondins de Bordeaux pour Marseille, où vous jouez 2 ans. Ça reste malgré tout un bon souvenir, l'Olympique de Marseille, le Stade Vélodrome ?
Alors, il y a deux choses. Quelque part. Il y a deux choses à la question. Il y a le départ, et après, il y a les 2 ans à Marseille. Le départ ?
C'est moyen.
À plus que moyen.
C'est plus que moyen.
Oui, c'est dur, parce que je ne l'avais pas programmé, ce n'était pas dans mes intentions, tout ça, des malentendus.
Vous aviez décidé, quoi qu'il arrive, de terminer votre carrière aux Girondins de Bordeaux.
Je ne voyais pas d'autres
possibilités.
Non, d'autres issues que cela.
Mais vous partez.
Oui, tout d'un coup, on prend une décision, mais
Vous n'avez pas envie d'apprendre la décision.
Non, mais de dire aussi, ah oui...
Vous n'avez pas envie de partir.
Bernard Tapie vous a... Non, c'est moi qui suis parti, parce que je dis, allez, c'est bon, je m'en vais, parce que y a des choses que je considérais ça. Je ne sais même pas. Et une fois que j'ai dit ça, j'avais l'impression que la terre s'écroulait sur moi, quoi. J'ai dit ça. C'était fait. Tac, il fallait partir, il fallait assumer. Alors après, oui, j'ai connu Marseille. Vivre dans ce club, cette ambiance, c'était exceptionnel. Il fallait que moi, j'arrivais au terme de ma carrière, on me commence à me dire, mais il vient en villégiature à Marseille, il fait beau. Non, là où je suis fier, c'est que j'ai été élu joueur de l'année en 87 avec ce maillot. Donc ça, les distinctions individuelles, ce sont toujours, bien sûr, agréables à prendre, mais là, doublement, parce que je démontrais que, vous voyez, je ne suis pas venu, j'ai honoré votre club, et ils sont sensibles à ça. Et en même temps, on a fait gagner un peu de temps à Bernard Tapie, avec des joueurs comme Carles Foyster, Jean-François Domergue, Joseph-Antoine Bell, des garçons expérimentés, plus des jeunes. Pour la première année, on fait deuxième et finaliste de la Coupe, demi-finale de la Coupe des Coupes, etc. Donc, voilà, on avait amené ce que lui attendait, des gens d'expérience qui permettent à son équipe d'être cadrée.
On va parler maintenant, si ça ne vous dérange pas, de l'équipe de France de football. L'équipe de France de football, c'est votre rêve, quelque part, quand vous êtes gamin à Langoiran. La première étape, c'est de signer aux Girondins de Bordeaux. La deuxième étape, c'est d'être titulaire dans l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et la troisième étape, parce que vous êtes un titulaire indiscutable et vous voyez que vous avez des qualités, vous êtes appelé en équipe de France de foot. Comment ça se passe ?
Mais déjà,
là, là, on parlait du rêve tout à l'heure. Là, c'est le must. On ne peut pas mieux.
Non, mais le rêve, effectivement, il passe surtout et avant tout, par l'équipe de France. Ça, c'est une évidence. À travers la Coupe du Monde, etc. Bien sûr. Évidemment, là, le maillot tricolore, le coq, la Marseillaise et tout. C'est tout. Mais là, l'équipe de France, c'est... Et puis, être international. Alors, j'ai été très tôt appelé. J'avais 22 ans. J'ai fait un match correct. On gagne en Pologne. Mais j'accroche pas fondamentalement, quoi. Et il passe un peu de temps après pour que, évidemment, je revienne. Et Bordeaux m'aide, dans ce sens qu'avec l'équipe qu'il y avait à Bordeaux, tous ces joueurs internationaux, ils font moi, je suis obligé de hisser mon niveau à chaque fois pour me mettre au niveau de ces joueurs qui arrivaient. Si ça n'avait pas été le cas, je serais parti je ne sais pas où. Et je maintiens ce niveau et je le développe. Et après, match aux Pays-Bas, en 81, Michel Hidalgo m'appelle, je vais. Et il se trouve que la veille de ce match, Michel Platini se blesse. Michel Hidalgo me dit « Alain, tu joues ». Et là, j'ai affirmé quelque chose. Et là aussi, une nouvelle fois, je ne suis plus ressorti de l'équipe de France.
Et votre premier titre en 84, on va revenir sur 82 après, mais c'est le premier titre d'un sport collectif en France. L'équipe de France de football en 84.
Je ne vais pas utiliser la formule marseillaise, vous la connaissez.
Mais oui, mais
à jamais les premiers.
Mais oui, mais c'est pourtant la réalité. Non, oui. On peut parler du hand, on peut parler du rugby, on peut parler de tout ce qu'on veut. Vous êtes la première équipe, sur le plan européen, hein, j'entends, à gagner un titre.
Même mondial. Le titre, ça balaye tout, quoi. Ouais. C'est le summum. On peut toujours discuter. C'est là ce qui est extraordinaire. On peut décortiquer un match. Oui, mais à ce moment-là, vous avez perdu, vous avez gagné le ballon, vous n'étiez pas bien. On peut laisser débattre. Et vous montrez le tableau d'affichage, hein, ou la photo avec la coupe. Oui, continuez. Oui, la coupe, elle est là, in the pocket. C'est ça le côté magique. Le titre, on est au-dessus de tout.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous en parle encore maintenant. De ce titre.
Oui,
c'est incroyable.
Oui, on en parle comme en référence le titre, ce que vous avez dit, gagné pour d'abord dans le football, première équipe du foot à gagner quelque chose, dans le sport collectif français, exactement. Mais en termes, si vous me dites de quoi me parle avant toute
82,
chose.
82, la demi-finale contre les Allemands, avec l'accident entre Schumacher et Battiston, évidemment, et le déroulement du match qui est hors norme. On peut en parler, Alain.
Je n'y échappe pas. Et à chaque fois.
C'est une souffrance, avec le recul du temps, ou ça fait partie de votre ADN ?
Non, en tout cas, oui. Je veux dire, c'est une souffrance atténuée, évidemment, mais ça reste quelque chose
de mythique.
Oui,
c'est mythique.
On ne peut pas l'éliminer. Plus on va en parler, plus la rage va revenir et plus ça va grincer, ça me grince de dire non, c'est pas possible, etc. Oui, ça crée le même effet, quoi. C'est tellement. C'est toujours vivace, quoi. C'est toujours vivace parce que ce match-là, mais il a tellement. On a tellement vécu de situations à l'intérieur de ce match-là, de faits particuliers, de faits contre nous. Bon, voilà. Et puis surtout, ce qui est le plus terrible, on perd. Au foot, on joue, on gagne, tant mieux, on perd, ça arrive. Et on perd, mais si on avait marqué ces occasions, si nous avions fait ça. Mais là, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous ? On a subi, on a été victimes. On a été des victimes, malheureusement, de prise de décision qui allait à notre encontre. C'est ça. Et se dit ça, plus on va parler, plus on va trouver la solution à cela, quoi.
En tous les cas, c'est des moments magiques, incroyables. Je le répète régulièrement depuis le début de cet entretien. Vous avez, je ne sais pas si je peux le dire, une vie de rêve.
c'est ce que je vois que c'est d'une intensité émotionnelle, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est on le vit, on l'a vécu, on continue de le vivre avec tous mes copains joueurs, et je dis pas mes coéquipiers, je dis mes copains, mes amis, on a fait ça et en plus on le partage avec tous les gens. Tous les gens qui m'interpellent par rapport à notamment ces matchs dont vous citez.
Le studio des légendes historiques, très vintage, 20h-21h, Alain Giresse, le consultant football d'Europe 1, et surtout ancien international, ancien joueur de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe en 84, ancien entraîneur de Toulouse, du Paris Saint-Germain, de sélections diverses, la Géorgie, le Gabon, le Mali, le Sénégal, la Tunisie et le Kosovo, réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé. À tout de suite.
Europe 1.
Bonjour, c'est William Lémergie.
Balade en France.
Demain, à partir de 11h, nous nous arrêterons dans l'Essonne, à Milly-la-Forêt, pour visiter l'ancienne demeure de Jean Cocteau. Pour la séquence plein air, direction Besançon, pour une promenade en bateau électrique, où nous apprendrons aussi à passer les écluses.
Balade en France. William Lémergie sur Europe 1.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Europe 1.
On est sur le toit du monde. On est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, enfin, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Le studio des légendes, historique, très vintage. 20h, 21h, Alain Giresse, le consultant football d'Europe 1. Et surtout ancien international, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe en 84, ancien entraîneur de Toulouse, du Paris Saint-Germain, de diverses sélections, la Géorgie, le Gabon, le Mali, le Sénégal, la Tunisie et le Kosovo, réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé. Alain Giresse, j'ai encore une question à vous poser par rapport à l'équipe de France. Il y a eu 82, bien sûr, il y a eu 84, on en a parlé, et il y a eu aussi 1986. Qui est aussi une période extraordinaire pour cette équipe de France de football.
Oui, parce que après donc le décollage qu'il y a eu en 82,
passons, il y a 84, vous êtes champion d'Europe.
Voilà, la vitesse de croisière, on l'a pris pour 84, champion d'Europe au passage. Et puis on continue, donc champion d'Europe, on est fait partie des favoris pour la Coupe du Monde 86. Et là, donc on va au Mexique et on fait un parcours, notamment il faut éliminer le champion du monde, l'Italie. Quart de finale, alors quand vous parlez beaucoup de magie, ben là, magique, à Guadalajara, le lieu préféré des Brésiliens au Mexique, en pensant à 1970, et jouer le Brésil en Coupe du Monde. Voilà, et on les élimine en quart de finale, et on se retrouve à nouveau en demi-finale contre l'Allemagne, et malheureusement, là on ne peut pas. Ce match-là, malheureusement, il n'est pas abouti. Il nous manque un petit peu. On a trop laissé sur le plan physique, sur le plan mental, certainement. On était émoussés du match
contre le Brésil.
Du match contre le Brésil. Et puis voilà, on a manqué un petit peu de fraîcheur. Parce qu'on voit, quand on revoit le match, il manque pas grand-chose. Toutes les situations qu'on a eues, on ne les a pas mises. Et malheureusement, on se fait éliminer. Mais bon, on finit troisième. Voilà, c'est... On avait réussi quand même à maintenir l'équipe au niveau de l'équipe de France au niveau mondial le plus élevé, c'est quand même déjà en soi une performance.
Alors à quel moment, parce que vous êtes à Marseille, à quel moment vous décidez d'arrêter votre carrière? Vous jouez à Bordeaux, ok, vous faites 2 ans à Marseille, c'est la fin de votre carrière. À quel moment vous avez décidé dans votre tête de dire voilà, l'affaire est terminée, je peux peut-être faire encore 1 an, peut-être que je peux retourner à Bordeaux ou dans un autre club, à quel moment vous dites « Allez, c'est la fin du film ».
Saison 4, la deuxième à Marseille, c'est-à-dire 87-88, et ça se passe bien, mais je me dis « Il vaut mieux peut-être devancer que plutôt qu'on me dise « Bon, c'est bien, t'es gentil, mais maintenant il vaut mieux que tu te ranges un peu les crampons, et puis c'est bien ». Non, j'ai devancé tout ça,
Mais conversations familiales, oui. Comment ça se passe?
Oui, on a aussi des conversations familiales, et c'est vrai, parce qu'on avait notre premier enfant qui allait rentrer au collège, et il était bien sûr scolarisé là-bas à Marseille, mais on a dit bon, on va le faire au collège
à Bordeaux,
à côté de chez nous à Bordeaux, voilà, et puis un peu tout ça joué, et on est rentré. Mais on est rentré, bon, chez nous, dans notre région, etc., il n'y a posé pas de problème. Mais le cœur lourd, parce que vraiment, les deux années, enfin moi j'ai dit, j'ai bien terminé, quoi. On a, voilà, mais...
Pas de regret. Pas le fait de faire une année supplémentaire.
Sur le moment, non. Mais après coup,
oui.
Mais après coup, je me dis qu'avec aménagement, j'aurais pu continuer. Je ne dis pas que j'allais faire les 38 matchs du championnat, ce n'est pas ça. Mais avec un aménagement, je pourrais. Et Jacques, vous êtes bien placé pour savoir que j'aurais pu un peu plus
bien
jouer.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Mais oui, mais c'était fait, c'était fait. D'ailleurs, en étant revenu aux Girondins autour, le président avait sollicité mon épouse pour lui demander...
Claude Bèze.
Oui, Claude Bèze, pour que je rejoue. Elle lui a dit, il l'avait appelé à elle, pas à moi. Il lui dit, dites-lui qu'à l'entraînement, il donnait des coups de main à l'entraîneur, etc. Il
faisait partie d'encadrement. Vous revenez à Bordeaux.
Avec Raymond Gauthals.
Voilà, donc vous quittez Marseille, ouais. Vous revenez à Bordeaux, vous faites partie de l'encadrement des Girondins de Bordeaux, et vous travaillez comme entraîneur adjoint, si on peut parler comme ça, avec Raymond Gauthals.
Oui, c'est une forme de complicité, parce que j'avais été son capitaine, et mais les relations avec Raymond Gauthals avaient été vraiment exceptionnelles, et donc il était content de m'avoir à ses côtés. Et quand il y a manqué un pour les petits matchs, je jouais. Et là, il disait... Il m'a sollicité. J'ai dit non. J'avais dit c'était fini. Mais voilà, tout ça, ça ne peut que ouvrir des regrets. Ça ne peut que donner des regrets, ça.
Alors, vous parlez de Raymond Gauthals, personnage hors norme.
Exceptionnel.
Exceptionnel.
Oui, exceptionnel. C'est vraiment... Alors, parce qu'en plus, quand il est arrivé...
C'est lui qui est champion d'Europe avec l'OM en 93, on rappelle.
Absolument, mais voilà. Quand il est arrivé, c'était quelqu'un qui était strict, comme ça. On se demandait comment on allait être. Et puis, on a vu quelqu'un qui... Voilà, qui avait, alors, il parlait qu'au football. Hein. Mangez avec lui, prenez les verres pour passer les verres à la place des joueurs, etc. Donc, voilà, il connaissait le football comme c'est pas possible. Mais c'est de sa vie. Que ça. Il n'y avait que ça qui comptait.
Oui, mais Alain Giresse, je serais tenté de vous dire, avec le recul du temps, parce que ça fait très longtemps que nous nous connaissons, que nous nous côtoyons, que ce soit professionnellement ou dans le cadre du Variété Club de France, votre passion, c'est aussi le football.
Oui.
C'est notre passion. Enfin, Jérôme. On est omnubilé, quelque part.
Vous avez énoncé un petit peu tout ce que j'ai fait là. C'est de la passion, tout ça. Parce que vous avez cité mon après-football. Mon après-football avait ses différentes sélections, parce que j'ai fait beaucoup de sélections. Mais vous avez vu, j'ai été dans des pays, c'est pas simple que ça. Mais il y avait quoi? C'était quoi? C'était la flamme du football qui était là. Et que j'essayais de continuer à attiser dans les différents pays que je m'occupais. Voilà, et puis avec... ce contact avec les joueurs, le terrain, voilà, ça n'a pas toujours été simple. Mais moi, la passion, elle va au-delà de toutes ces complications qu'il peut y avoir, ça c'est sûr, et toutes ces contraintes.
Et pour conclure, si vous voulez, cette période joueur, avant de parler de celle d'entraîneur, il y a votre jubilé à Bordeaux, au stade Jacques Chaban-Delmas, on va y revenir, il y a le 100e anniversaire le 14 mai prochain. Racontez-nous, faites-nous rêver. On va jouer encore les anciens combattants, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Votre jubilé, une fête magnifique.
Ben, jubilé, c'est...
Je me souviens très bien.
Un jubilé, c'est quelque chose d'à part. C'est à part parce que, d'abord, un jubilé, ça se construit. Vous êtes bien placé pour le savoir. On construit le match que l'on veut avoir. Équipe, adversaire, de lever les rideaux, du match principal. Voilà, entre amis, quoi. C'est entre amis, c'est une fête, c'est... C'est le plaisir.
Stade plein à craquer.
Le stade plein, télévisé, etc. Oui, il y a tout. Et sans aucun stress par rapport au résultat ou comme ça. Mais là, on revoit les... Non, c'est à part et c'est magique. Heureusement que ça existe toujours. Et ça permet de clôturer une histoire avec un club, un stade. Voilà. Sauf que, bon, on va y revenir... Il y a une petite prolongation qui n'était pas prévue à l'époque. Voilà, on y reviendra, mais voilà, c'est... Et ça a été magique, quoi. Alors, en plus, il y a toujours des anecdotes, etc. Michel Platini, ce jour-là, jouait avec Bordeaux. Mais j'ai dit, Michel, ah pardon, hein, le 10 à Bordeaux, c'est moi. Hein. il avait le 9. Donc voilà, il y a tout ça qui vient. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut être dans les... vous imaginez, vous l'avez vu, vous l'avez vécu dans les vestiaires, etc. Tout autour. Voilà, c'est un joli final.
Je voudrais qu'on parle de votre carrière d'entraîneur. Elle débute à Toulouse, en fait.
Oui.
Entraîneur oui. numéro 1.
Oui.
Et donc, comment ça se passe? C'est la saison 95-98, enfin de 95 à 98. Mmh. Là, c'est votre premier grand saut, si je peux me permettre. Même si vous avez un peu travaillé au Girondins de Bordeaux comme entraîneur adjoint ou conseiller technique, etc. Là, c'est là vous vous lâchez.
Oui, il faut prendre les rênes de l'équipe. Donc, c'est moi le responsable de l'équipe. Quelque part, au fond de ma tête, je lui dis, ça va arriver un jour.
Le problème, et c'est arrivé.
Mais le problème, je ne savais pas quand, comment et pourquoi. Et puis là, c'est arrivé, c'était Roland Courbis qui était entraîneur de Toulouse, du TFC, et puis qui a arrêté. Et le président, qui était un ami, me dit, il faut y aller. Bon, j'ai dit, allez.
André Labattu.
André Labattu, oui. Et il me dit, j'ai dit, écoute, allez, j'y vais. Et c'est parti comme ça. Il a fallu, allez, comme si on m'a dit, tiens, tu vois la piscine, il faut plonger. Allez, j'ai plongé, puis j'ai enclenché ma carrière d'entraîneur.
Et en 98, alors là, c'est le saut, l'immense saut, vous vous retrouvez à la tête du Paris Saint-Germain, sollicité par Canal+, par Pierre Lescure, par Bietri, etc. Et donc, vous vous retrouvez entraîneur du Paris Saint-Germain.
Oui.
Là, ce n'était pas prévu.
Non, pas du tout. Non.
Mais pas du tout.
Mais Charles m'avait convaincu à ce moment-là. On se connaissait bien. On se connaît bien, pardon. Et voilà. Mais là, je dirais plutôt, j'ai fait un saut, mais dans le vide. Plutôt. Oui, compliqué. Il y avait changement. Michel Dizot partait à Canal. Charles Bietri venait à Paris. C'était une transition un petit peu qui ne se passait pas aussi simple que ça. D'ailleurs, le club est rentré dans une période difficile. Moi, j'ai fait 2 mois. Arthur Georges est venu après, a fait aussi 2 mois ou 3 mois. Il n'a pas terminé. Charles Bietri, en décembre aussi, a arrêté. Voilà. Alors ça, c'est au rayon, oui. C'est pas au rayon des bons souvenirs.
Et vous revenez à Toulouse?
Et je reviens à Toulouse, oui, parce que je suis basé là-bas et que après une période difficile, le club, voilà, et le club va en D2 et je repars avec une année en D2 et on remonte en première division après cette année-là.
Et là, autre aventure, vous décidez de partir à l'étranger.
Oui.
Parce que là, vous faites Toulouse, vous faites le Paris Saint-Germain, vous revenez à Toulouse et vous partez dans un club légendaire du football marocain, le FAR Rabat, Force Armée Royale, qui est donc le club, enfin, de Sa Majesté Hassan II dans un premier temps, et maintenant de Mohamed VI.
Oui, c'est un club. Et je vais pas vous le raconter. L'histoire, elle est assez incroyable. D'ailleurs, vous allez être plus que témoin. Et voilà, en ayant fait un petit... En ayant découvert un petit peu le lieu d'anniversaire du Variété, et il y avait... Mais il y avait un club qui me sollicitait, qui n'était pas les Forces Armées Royales, et je m'étais presque un petit peu engagé. Mais derrière cela, le général Ben Slimane,
Hosni Ben Slimane,
qui avait su que j'étais éventuellement là,
il a tout fait pour.
Il a demandé, et moi j'ai appelé le président du club avec lequel j'étais en contact, pour lui dire, écoutez, je suis désolé, mais forcément, il a compris, et donc j'étais aux Forces Armées Royales. Superbe, superbe expérience.
Alors, ce qui est extraordinaire dans toutes ces expériences, c'est que vous êtes parti en Géorgie, au Gabon, au Mali, au Sénégal, la Tunisie, le Kosovo. On peut dire que vous avez connu toutes sortes de football, toutes sortes de cultures, et ça vous a fait, j'aime pas ce terme, mais ça vous a fait évoluer dans le football et connaître des choses qui sortent de l'ordinaire, que ce soit la culture géorgienne, que ce soit la culture africaine avec le Gabon, le Mali, le Sénégal, par exemple, ou la Tunisie. Donc, quels sont les souvenirs que vous gardez de toutes ces expériences à l'étranger?
Et vous avez raison de dire la culture, pas que le football.
Non, non, la culture de la vie de tous
absolument,
les jours.
Parce que, pour y être au quotidien, je me suis plongé dans les cultures de ces pays, la vie dans ces
parce
pays.
Parce qu'aller en Géorgie au départ, c'est quand même pas risqué, mais enfin, je veux dire, il faut avoir envie.
Oui, c'était après la révolution de mai, là. Donc il y avait eu un changement au niveau de la presse. C'était le président Saakachvili qui avait pris la place de Tchevrendadze. Et en plus, changement complet, changement de... Le drapeau changé, l'hymne changé. Il a fallu que moi, en arrivant, je fasse apprendre l'hymne, le nouvel hymne
aux joueurs.
Parce qu'eux, ils allaient se retrouver, puisqu'ils étaient tous à l'étranger, se retrouver le premier match face à un hymne qu'ils ne connaissaient pas. Et là, voilà, je me suis plongé. Mais, et là, c'est pareil. c'est des souvenirs sur le plan énorme. Actuellement, je suis heureux pour eux qui se sont qualifiés pour l'Euro, avec un président qui était un de mes joueurs, un vice-président qui était un de mes joueurs, le secrétaire qui était un de mes joueurs.
Et Willy Sagnel, entraîneur.
Et maintenant, Willy est très content. Enfin, je suis très content pour lui, évidemment. Voilà, c'est des histoires. Et j'ai enclenché à chaque fois. Je suis quelque part...
La Géorgie qualifiée pour l'Euro, hein, pour en Allemagne.
Absolument, c'est un exploit.
14 juin, 14 juillet.
Alors moi, j'aime découvrir. Donc un petit peu de découvrir... Je suis parti avec cette idée-là. Je vais découvrir ce football, comme on l'a dit, le football, la culture dans ce pays. Voilà. Et je garde toujours des moments forts de ces passages-là, comme ça a été le prix sur le continent africain. Comment ça se déclenche un peu? Michel Platini, toujours dans sa position à l'UEFA et à la FIFA, me discutait toujours avec des présidents et l'occurrence, président, ça avait été le cas pour la Géorgie. Pour le Gabon, ça a été pareil. Et de là, ça y est, j'enclenchais. J'ai dit, tiens, pourquoi pas? Voyons un petit peu ce que c'est. Et j'ai découvert un petit peu, effectivement, le football en Afrique. Et aujourd'hui, je vais en parler avec beaucoup d'émotions, parce que...
Et de respect.
Oui, énorme. Parce que je peux dire une chose, c'est que je me suis investi totalement. J'ai été dans des pays, notamment le premier, le Gabon, il n'y avait rien. C'est-à-dire rien dans le fonctionnement de l'équipe nationale. Rien. Pas d'équipement, pas d'organisation pour les matchs amis, rien du tout. Et moi, je me suis plongé là-dedans. Maintenant, je me demande aussi... Je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait, et m'occuper des convocations, de trouver un équipementier, les voyages, tout ça, et pour mettre en place. Et aujourd'hui, j'y reviens, j'ai gardé des liens, et quand j'arrive, c'est des moments forts, dans les autres pays aussi. Ça, c'est toujours passé de
mais
la même façon.
Mais pourquoi le Gabon, le Mali, le Sénégal, même si Michel Platini vous a recommandé, c'est pas le thème, en tous les cas, a suggéré votre nom, ça fait partie du film. Vous aimez la culture africaine en règle générale?
Il y a un côté sympa.
Ah, adorable. Adorable.
Ils savent, comment dirais-je, ils ont la joie de vivre, quoi. Ils ont la joie de vivre, la musique, partager des moments avec ces gens-là, c'est vraiment... Et c'est pas facile, hein, dans tous les pays, pour leur vie au quotidien. Attention, hein, ils ont des moments difficiles. Mais il faut abstraction de ça et tout. Et je dis, quelquefois, vous trouvez ces gens-là, moi, ils ont une chemise et ils vous la donnent, quoi. Et ça, ça m'a... Et moi, je devais, vis-à-vis de ça, être clean et vraiment de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien.
Le studio des légendes historiques, très vintage, ce soir, 20h-21h. Alain Giresse, le consultant football d'Europe 1, et surtout ancien international, ancien joueur de Bordeaux, de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe en 84, ancien entraîneur de Toulouse, du PSG, plusieurs sélections, la Géorgie, le Gabon, le Mali, le Sénégal, la Tunisie et le Kosovo. À tout de suite, le studio des légendes, c'est 20h-21h sur Europe 1, invité Alain Giresse. À tout de suite.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous dès lundi, de 19h à 21h, pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée, avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous lundi, de 19h à 21h, sur Europe 1.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que je fais une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, enfin, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Le studio des légendes, historique, vintage, je vous l'ai dit. 20h, 21h, vous êtes sur Europe 1. Alain Giresse, le consultant football d'Europe 1, bien sûr, et surtout ancien international, ancien joueur de Bordeaux, de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe en 84, ancien entraîneur de Toulouse, du Paris Saint-Germain, de différentes sélections comme la Géorgie, le Gabon, le Mali, le Sénégal, la Tunisie, réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé. Alain Giresse, je voudrais qu'on parle un peu d'actualité. Comment vous vivez le football de maintenant par rapport à tout ce que vous avez vécu? Il y a une évolution, évidemment, avec l'argent, avec les supporters, avec les stades, avec bon, il y a plein de choses qui ont changé, mais ça, c'est la société qui a changé. Comment vous le vivez actuellement ?
Oui, ben ça, la société change. Le monde du football, fatalement, a évolué. Je ne porterai pas de jugement, en bien ou en mal, je ne porterai pas de ça, c'est comme ça. Effectivement, c'est les avancées qu'il peut y avoir dans le temps, dans l'histoire d'une discipline, dans l'occurrence le football. Mais moi, je garde toujours au fond l'élément référent, pour moi, c'est le terrain. Le terrain, le rectangle vert, 11 contre 11, et c'est là que tout se fait. C'est là que tout se fait, et ce qui réclame, évidemment, ce que le football réclame. Un collectif, des joueurs de qualité, du jeu, voilà. Ça. Après, tout ce qui est mis en œuvre autour, il faut faire la part des choses, quoi. Vous avez parlé, oui, il y a beaucoup. Vous avez parlé maintenant du côté économique avec tous ces investisseurs qui viennent dans les clubs. Moi, je parle notamment en France, qui arrivent avec leurs moyens, mais au départ, ils achètent ces clubs, on se demande pourquoi. Et on voit que quelquefois, ça fait plus de dégâts que de bien. Donc, c'est ça que... Et je parle en connaissance de cause par rapport aux Girondins de Bordeaux, qui sont en suspens à cause d'Américains qui, tout d'un coup, ont tout arrêté et ça a failli être la mort du club. Après, il y a toutes ces données aussi technologiques qui viennent autour des préparations de joueurs. Bien sûr qu'il faut les préparer, mais à un moment donné... L'informatique va pas tout régler, quoi. L'informatique, l'ordinateur va pas déceler si vous avez un joueur. Oui, combien il court, à quelle vitesse, s'il saute haut, s'il saute pas, etc. Oui, on veut l'avoir. Mais l'intelligence de jeu de quelqu'un qui est capable de voir, d'avoir une analyse des situations et d'amener la réponse qu'il faut, d'avoir une sensibilité technique, etc. Je peux vous dire, vous pouvez, cet ordinateur, il n'existe pas, il n'existera jamais. Donc, il faut faire attention, il faut utiliser bien sûr tout ce qui se peut permettre d'améliorer le jeu, mais il y a une donnée humaine qui s'en conteste, voilà. Donc moi je me situe parce que au final nous maintenant observateurs, assister à un match ou le voir à la télé, qu'est-ce qu'on veut voir? On voit de l'émotion, on voit de la qualité. Je veux me soulever de mon siège quand je vois un geste, une action, voilà. Et heureusement encore, ça existe, bien ça existe.
Justement, puisqu'on parle de but, de joueur, d'action, dans toute l'histoire du football, on parle de Raymond Kopa, on parle de Michel Platini, on parle de Zinedine Zidane, on parle de Mbappé maintenant. Est-ce que c'est votre classement aussi des meilleurs joueurs de tous les temps? Ou je mettrais aussi Alain Giresse, mais ça n'engage que moi.
Hein. C'est gentil. Non, mais oui, nous, on sait que c'est un peu... Par secteur,
mais oui, c'est par période.
Oui, on est une génération qui est
58, avec Raymond Kopa,
chef de file. Vous avez après, c'est Michel, Platini, Zinedine, Zidane, et puis effectivement, là, c'est Mbappé. La génération Kylian Mbappé. Oui, voilà. Ben pourquoi? Parce que d'abord, en premier lieu, ce sont des joueurs exceptionnels. Ballon d'or, et peut-être futur Ballon d'Or. Donc, c'est pas
rien. Le quatrième,
donc,
Mbappé,
c'est pas rien.
D'accord.
Donc, il y a quand même quelque chose. Voilà, et c'est ça. Et ce sont nos leaders. Ce sont nos leaders, avec chacun leurs caractéristiques de joueurs, de personnalités différentes. Mais ce sont ça. Ce qui fait que quand même, c'est pas rien d'avoir des joueurs de cette dimension. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent s'enorgueillir d'avoir, de pouvoir positionner comme ça, des joueurs de cette dimension. Tant mieux pour le football français. Et on voit les résultats. La France fait partie des meilleures équipes du monde.
Non, ce qui veut dire, Alain Giresse, c'est que pour avoir une grande équipe nationale, il faut avoir au départ un grand joueur, une sorte de leader. On parle de 58 avec Raymond Kopa. On parle de votre période avec Michel Platini. On parle de la période de 98 où la France est championne du monde avec Zinedine Zidane et bien d'autres encore. On parle de la période actuellement du Paris Saint-Germain avec Mbappé. Je veux dire, c'est indispensable d'avoir un grand, grand leader, une sorte de guide.
Mais ça aide.
Ça aide, oui. Évidemment, ça aide.
Ça aide
oui, mais
plus
enfin,
que ça
fait aussi partie d'un collectif, parce que oui. En vous écoutant depuis 20 heures sur Europe 1, dans ce studio des légendes, vous donnez quand même une immense priorité au collectif. Sans le collectif, vous ne pouvez pas réussir.
Et vice-versa. Voilà, c'est le bon équilibre qu'on doit trouver dans une équipe. Mais c'est ce qu'il y avait, et je peux parler en connaissance de cause. J'ai vécu en équipe nationale avec Michel Platini, qui est un joueur hors norme, dans la dimension suprême. Mais si nous, on comprenait ce qu'il lui était capable de faire et ce qu'on devait lui apporter, mais lui aussi, lui savait que très bien autour, il avait autour des joueurs, une équipe qui allait lui permettre deux. Et c'est ça, c'est le bon équilibre qui fait que, voilà, au final. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me sens pas frustré d'avoir été avec Michel Platini. On nous a opposés à un moment donné. Platini Giresse, ils ne pourront pas jouer ensemble. Ça, c'était les débats de Café du Commerce. Mais nous, on l'a démontré. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que c'est les résultats. On ne faisait pas passer notre production avant l'intérêt général, qui est quoi ? Le résultat de l'équipe. Donc, aujourd'hui, quand vous arrivez à ce que la symbiose se fait, là, c'est parfait. Et là, vous avez une équipe. Et alors, vous avez une équipe avec un collectif, et vous avez en plus le joueur plus. Pensez qu'en 86, les joueurs argentins, ils étaient conscients qu'avec Diego Maradona, c'est lui qui les fait gagner. Mais Diego savait aussi que...
Et vous avez aimé Diego Maradona.
Ah ben, attendez, là aussi, on parle de quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, ces joueurs-là. Et vous avez raison de dire, oui, vous pouvez avoir...
Qu'est-ce que vous avez aimé comme joueur ? Vous parlez de Diego Maradona. Bah,
Michel Platini. Michel, c'est à part. Parce que c'est à part, parce que c'est le côtoyer, c'est voilà, participer. Mais à tous les grands joueurs, on peut remonter un peu plus dans le temps. Des joueurs qui, malheureusement, se sont décédés. Johan Cruyff, Pelé, évidemment, Maradona, Beckenbauer, dans un autre registre, puisqu'il y a des Français.
Puskas.
Des joueurs Puskas.
Alfredo Di Stefano.
Rivellino,
Roberto Rivellino.
Oui, qu'on a croisé aussi.
Oui, oui, oui. Et
également. Non, mais voilà, tous ces grands joueurs. Messi, évidemment. Messi, Ronaldo, évidemment. Qui, dans un style différent, sont quand même des joueurs exceptionnels. Et qui, à l'arrivée, font que ces joueurs-là, ils donnent la dimension suprême à l'équipe.
Alors, expliquez-moi, une fois pour toutes, pourquoi les Giresse, les Platini, les Zidane, pourquoi vous êtes autant populaire ? Même si votre histoire avec Michel Platini, elle date bientôt de 40 ans, parce que c'est le 40e anniversaire du titre de 84, on parle toujours de vous, au même titre que Zidane, au même titre que... Vous êtes toujours populaire. Pourquoi ? Parce que vous avez marqué votre temps ? Parce que l'équipe de France ne gagnait pas à cette époque-là et que vous avez enfin gagné ? Quand on parle de Giresse, de Platini et évidemment de Zidane, les gens vous adorent. C'est quoi ? Il y a un lien particulier, la télévision, la radio ?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vous l'ai dit, je suis toujours trop surpris de cela, franchement. Et après, pour essayer de comprendre pourquoi et comment, j'essaye de voir un petit peu ce que les gens, comment ils m'abordent. Ah, mais nous, on aimait... Et je pense qu'il y avait autre chose. Ils ressentaient, enfin, les joueurs, ok, leur qualité de joueur, puis ils ressentaient quelque chose. Ils avaient l'impression, je pense que d'ailleurs, quand.
Ils s'identifient à vous.
Ouais, et quand ils nous rencontrent, ouais, je dis, moi j'ai pris l'avion, j'ai passé mon temps à faire des photos. C'est comme ça, j'aurais pas dit, venez me prendre en photo. Bon, et ils se disent, tiens, c'est comme je l'imaginais. Et je pense que c'est
ça. Ils ne sont pas déçus.
Non, il y a une espèce de proximité qui fait, je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait de plus, moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas essayé d'avoir une attitude pour, c'est comme ça, c'est naturel. Voilà, je pense qu'on avait une forme de simplicité, de naturel, qu'on était moins médiatisés qu'ils le sont aujourd'hui, parce que la médiatisation qu'ils subissent, je dis, elle ne correspond pas toutefois, toujours, à la réalité de ce qu'ils sont. Et ça, c'est dommage pour eux. Moi, je le vois, puisque j'ai entraîné des sélections avec de très grands joueurs et j'ai essayé toujours d'avoir avec eux des discussions pour les sortir, surtout avec les réseaux. Il y en a qui se prenaient la tête avec les réseaux. Je leur disais, mais laissez tomber. Il vaut mieux que vous soyez des joueurs de foot que ces gens-là qui sont en train de venir vous raconter des histoires. Laissez tomber, etc. C'est pas... Voilà, c'est un univers que nous, on n'avait pas et qui fait que nous, on avait, on était spontanés, nature, quoi.
Je voudrais qu'on parle un peu d'avenir, entre guillemets. Hein. On va parler de matchs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que vous jouez toujours, et ça c'est important, avec le Variété Club de France. Et la semaine prochaine, il y a un match qui est hors norme. Un match qui a lieu du côté de Poissy, chez notre ami Carl Olive. Il y a un match avec l'équipe de France des prêtres, et deux bonnes sœurs qui vont jouer avec l'équipe de France des prêtres. Le match est arbitré par l'évêque de Rouen, qui s'appelle Monseigneur Lebrun, que vous connaissez, qui nous avait arbitré une fois à Rome il y a une quinzaine d'années. Et avec nous, dans l'équipe du Variété Club de France, vont jouer un imam, un pasteur, un prêtre et un rabbin.
Mais c'est très bien tout ça.
C'est bien, hein ?
Oui, mais bien sûr, bien sûr.
Je défends un peu ma cause, parce que Europe 1 est, nous aide à organiser ce match. Donc, c'est formidable dans le contexte actuel.
Mais évidemment, moi j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas s'accepter les uns les autres et de respecter chacun ses convictions. Vous avez cité que les pays que j'ai entraînés, ben c'est pareil. J'ai payé des pays musulmans, des pays catholiques. Il n'y a pas de problème. Le respect fait que chacun se respecte et respecte un petit peu le mode de vie et les convictions propres à chacun. Et là, c'est très bien qu'on soit réunis pour ça. De toute façon, c'est un bel exemple en tout cas.
C'est le 5 mai à 15h à Poissy. Et puis, je voudrais parler aussi d'un autre événement. Alors celui-là, Alain, il vous touche particulièrement. C'est le 100e anniversaire du stade Jacques Bandelmas. C'est le mardi 14 mai à 20h. Et là, tout le monde est là. On ne va pas donner les noms parce que c'est trop long. Mais en tous les cas, c'est un truc qui est formidable parce que là, c'est un rendez-vous affectif. Le stade sera plein, 32 000 personnes.
Incroyable.
C'est incroyable. Oui. Et les gens ont tous envie de vous revoir. C'est ça qui est important.
Vous revoir avec tous ceux qui ont participé, vous
bien
l'avez
sûr,
dit.
Bien sûr, bien sûr.
Et non des moindres,
bien sûr.
Évidemment. Mais si, sur un plan personnel, oui, franchement...
Vous allez débuter avec l'équipe des Girondins de Bordeaux, avec le brassard de capitaine, avec votre numéro 10, parce que vous êtes le joueur... C'est unique, qui a le recordman de match dans ce stade.
Et de buts. Voilà.
Sur le plan affectif, c'est important parce qu'on en parle, on en parle quasiment régulièrement au téléphone, on en parle dans l'émission Le Studio des Légendes régulièrement sur Europe 1, 20h, 21h. C'est une histoire d'amour qu'on est en train tous de recréer le 14 mai.
Mais c'est. Une fois que c'est parti, l'enclenchement, la mairie décide d'honorer ce stade, puisque c'est pas
qui normalement devait être démoli,
qui a failli disparaître.
Incroyable,
bien sûr.
Maintenant, c'est Bègles Bordeaux qui joue dans ce stade.
C'est ça. Il existe et restera toujours debout, et c'est
important.
Et plus on avance dans cette préparation, là, il y a quelque chose de profond qui est en train de s'installer. Pourquoi ? Parce que moi, on fait toujours l'histoire, on la refait toujours, on remonte dans le temps. J'étais ce gamin qui passait devant la Grande Arche, sur les boulevards. Et je demandais toujours à mon père qu'est-ce qu'il y avait. C'était le stade là où les grands matchs se jouaient. Et donc, un enfant comme ça. Et jamais j'imaginais que, non seulement j'allais faire ma carrière de joueur là-dessus, que j'allais faire mes plus beaux matchs là-dessus, qu'au final, et vous venez de dire, de ce stade qui a 100 ans, j'allais faire le plus de matchs. Il n'y a pas un joueur ou un autre qui a fait plus de matchs et marqué plus de buts dans ce stade. Là, je commence à avoir la gorge qui se noue.
L'émotion.
Oui, parce que je sais qu'après, j'ai fait mon jubilé là-bas. On l'a dit, en fait. Mais là, je pense que là, ça va être...
Le summum.
Et le point final.
De l'émotion. La fin du film.
Et puis je dirais, vous rendez compte, là, je vais faire moi, c'est personnel. Je dirais, voilà, tu te souviens, petit, tu passais là-devant. Et maintenant, tu conclus ton histoire.
Mais ce que je voudrais dire aussi aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent dans cette émission Le Studio des Légendes, c'est que vous êtes l'un des grands ordonnateurs de cette fête du 14 mai, parce que sur le plan émotionnel, et je le répète une nouvelle fois, même s'il doit faire rire certaines personnes, sur le plan affectif, c'est hyper important. Hyper important.
Mais dans la vie, il y a toujours les belles histoires, on doit en parler, on doit développer ça. Je veux dire, vous l'avez dit, Jacques, la plus belle réponse, la première réponse qu'on a pu avoir, et je vous dis on avec vous, c'est quand tout d'un coup, le top départ a été pour la vente des billets.
Un lundi à 14h30.
Le lendemain, il n'y a plus rien.
32 000 billets.
Terminé, c'était fini.
Et pourquoi ?
Pour une raison qui est très simple,
Alain. Peut-être que vous ne pouvez pas le dire. Il y a un côté vintage, nostalgique, actuellement dans le pays, et sans doute du côté de Bordeaux, parce que malheureusement Bordeaux n'obtient pas de bons résultats, et donc les gens ont envie, c'est pas péjoratif, de vous revoir une dernière fois. Ils en ont envie.
Bordeaux, non seulement a envie de nous revoir, c'est une réalité par rapport à l'histoire des Girondins, mais de revivre dans ce stade tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour ça que, certainement, les 30 000 seront présents ce jour-là.
Merci Alain Giresse, le Studio des Légendes, historique, vintage, 20h-21h. Alain Giresse était notre invité, c'est le consultant football d'Europe 1 et surtout l'ancien international, ancien joueur de Bordeaux, de Marseille, champion d'Europe de 84, ancien entraîneur de Toulouse, du Paris Saint-Germain, de sélections diverses, Géorgie, Gabon, Mali, le Sénégal, la Tunisie et le Kosovo. Réalisation Benoît Levieux-Noy. Collaboration Hugo Levé. À demain. Merci à tous.
À suivre sur Europe 1 et Joe, votre émission musicale présentée par Joe Hume. Et retrouvez Au cœur de l'histoire tous les samedis et dimanches de 15h à 16h sur Europe 1. Artiste, scientifique, politique, de Ramsès II à Vincent Van Gogh, en passant par Napoléon et Marie.